Salut, c'est Jérémy Royaux pour Scepticisme Scientifique. Aujourd'hui, c'est un épisode solo et je vais vous parler un petit peu de stoïcisme. Plus spécifiquement, je vais vous parler d'un billet publié par le philosophe Massimo Pigliucci sur son blog, un billet qui s'appelle Stoïcisme 101, et qui est donc une introduction au stoïcisme. Un sujet qui intéresse beaucoup l'auteur, puisque bien que ce soit le fondateur du podcast Rationally Speaking, podcast qu'on apprécie beaucoup ici sur Scepticisme Scientifique. Il a abandonné son podcast il y a quelques années pour se consacrer entièrement à un travail sur le stoïcisme et à une relecture contemporaine de ce mouvement philosophique. Alors pourquoi s'intéresser au stoïcisme sur un podcast lié au scepticisme scientifique? Simplement parce que au niveau zététique ou sceptique, on est quand même très souvent confronté à des choix moraux ou éthiques. Des choix qu'on se retrouve à analyser sur base de certaines valeurs, de certains principes. Et ces principes, ça devient des réflexions, des questionnements liés à la philosophie plus qu'à la science. Et donc, voilà, on est plusieurs à avoir trouvé le travail de Massimo Pigliucci assez intéressant. Qui fait qu'au fil de discussion, on a décidé de faire un petit groupe pour traduire ce billet d'introduction. Et je pense qu'on aura aussi l'occasion d'en reparler. Je sais que Jean-Michel Abrassard est également intéressé par ce sujet. Et Massimo Pigliucci sort justement un livre cette année. Je pense qu'il est soit il sort bientôt, soit il est sorti tout récemment. Donc un livre qui présente vraiment le stoïcisme. Et en tout cas cette lecture contemporaine aussi que fait Massimo Pigliucci, parce qu'il y a certaines idées, certains concepts qui demandent un peu de dépoussiérage par rapport à ce qui est connu aujourd'hui en 2017. Donc, ce que je vais présenter ici, comme je le disais, c'est vraiment basé sur cette traduction qu'on a réalisée en groupe. Donc, je vais citer les personnes qui sont responsables de cette traduction. Donc, il y a eu Thomas Guillot, Nathanael Colin Jagger, Julien Clerc, Antoine Rosier, Yann Rabillet, Julien Manérol, Anna Le Marchand et moi-même. Alors je vais commencer par une brève introduction historique pour remettre un peu les choses dans le contexte. Donc, le stoïcisme, ça a été fondé par Zénon de Citium. Citium, ça veut dire Chypre, si j'ai bien compris. Alors ça date de moins 301 avant Jésus-Christ. Il y a plusieurs générations de personnages stoïques importants, donc après Zénon. Il y a notamment Chrysippe, qui est plus ou moins contemporain de Platon, de Socrate, des cyniques, aussi des sceptiques. Après ça, on a une deuxième période, qui est vraiment la période de la Rome impériale, avec Cicéron, mais aussi d'autres personnes importantes que certains d'entre vous connaissent déjà, comme Sénèque, Épictète ou encore Marc Aurèle. Et après cette période de la Rome impériale, c'est l'arrivée, l'avènement du christianisme en tant que religion romaine officielle. Et ça marque vraiment le déclin du stoïcisme, et aussi le déclin de beaucoup d'autres écoles de pensée du moment. Alors ces idées du stoïcisme, elles ont malgré tout survécu au travers de certaines figures historiques du christianisme. Des personnes comme Thomas d'Aquin ou Giordano Bruno, Montaigne, Descartes, encore Montesquieu ou Spinoza, et au sein aussi de divers courants comme l'existentialisme moderne et la théologie protestante néo-orthodoxe. Bon, ça c'est beaucoup plus tard déjà. Et de nos jours, c'est une philosophie qui vit une certaine renaissance, qui a influencé plusieurs pratiques contemporaines, notamment au niveau de la psychothérapie. On pense à la logothérapie par exemple, mais aussi à la thérapie cognitive et comportementale, dont le stoïcisme est un des fondements. Plus précisément, c'est notamment un des fondements de la thérapie rationnelle émotive d'Albert Ellis, qui est un des précurseurs de la thérapie cognitive. Et on trouve également des points communs avec le bouddhisme ou encore l'humanisme séculier. Donc la préoccupation principale des stoïciens, c'était de savoir comment mener leur vie de la meilleure manière possible. Donc pour ça, il y a trois branches de réflexion importantes, trois domaines d'études pour eux. Le premier, c'est l'éthique, le deuxième, c'est la physique, et le troisième, c'est la logique. Alors, par physique, les stoïciens font référence à quelque chose qui correspondrait aujourd'hui à un ensemble qui inclurait en même temps tout ce qui est sciences naturelles, mais aussi la métaphysique. Donc, c'est ce qu'on appelait avant la philosophie naturelle. Alors évidemment, il y a pas mal de notions que les stoïciens avaient à leur époque, qui ne sont plus vraiment valables aujourd'hui, le fait que les connaissances scientifiques ont évidemment beaucoup évolué. Et dans leur système, il y avait cette idée de tenir compte de l'état des connaissances du monde. Et donc, Massimo Pigucci, en tout cas, pense que ils auraient tout à fait intégré l'ensemble des connaissances scientifiques actuelles et que ça aurait fait quand même pas mal évoluer ce système. Donc, toujours au niveau de la physique, il y avait par exemple cette idée que l'univers avait débuté dans une sorte de feu cosmique et finirait de la même manière pour renaître dans une sorte de cycle infini. Et les stoïciens pensaient également que le monde était fait de matière et que toute chose avait une cause. Également que l'univers était organisé selon des lois, des principes rationnels, ce qu'ils appelaient logos. Donc ce concept peut être interprété notamment comme Dieu chez Épictète, mais la conception varie un petit peu d'un stoïque à l'autre. On peut aussi voir ça tout simplement comme l'idée que la nature est compréhensible grâce à la rationalité, ce qui explique pourquoi on peut l'explorer scientifiquement. Vis-à-vis de ces lois et de ces principes de fonctionnement qu'on peut donc étudier par la pensée. Une autre idée majeure du côté de la physique, c'est que la vie devrait être vécue selon la nature, ce qui peut être interprété comme en accord avec Dieu, hein, puisque c'est Dieu qui a créé ces lois. L'idée, c'est de vivre en accord avec les lois qui sont créées par Dieu. Mais bon, cette conception était partagé de manière un petit peu variable en fonction des stoïciens. Et ça peut aussi être interprété, selon Pigucci, comme le fait de vivre selon la raison, en développant un maximum cette raison, ces capacités d'analyse. Donc, voilà, bon, c'est une interprétation, en tout cas non religieuse, ici, que Pigucci en fait. Bien sûr, c'est difficile de savoir ce que les stoïciens penseraient aujourd'hui, puisqu'à l'époque, la croyance divine sous différentes formes avait évidemment une autre place que ce qu'elle occupe aujourd'hui. Alors on a parlé de physique et maintenant on va un peu parler du concept de logique qui englobe donc l'étude de la logique au sens strict que nous entendons aujourd'hui, plus la rhétorique, l'épistémologie, c'est-à-dire la théorie de la connaissance. Aussi également ce que nous appellerions la psychologie et d'autres sciences sociales du même ordre. Tout ça, ça forme un espèce d'ensemble qui correspond à ce que les stoïciens appellent la logique. Donc, les stoïciens pensaient que grâce à la raison, on pouvait être capable de distinguer le vrai du faux, mais aussi utiliser cette capacité d'expertise pour mieux comprendre les lois de la nature. Et notamment, le passage par l'expertise des pairs était aussi considéré comme importante, parce que le jugement collectif des pairs permettait aussi de faire avancer les connaissances, qui rappelle un peu le fonctionnement donc, de la science moderne. Alors il reste la question de l'éthique. Alors l'éthique, c'est vraiment la principale raison de s'intéresser au stoïcisme. Ce qui est intéressant à clarifier d'abord, c'est que le stoïcisme, ça ne consiste pas, comme certains le pensent, à supprimer ses émotions et avancer dans la vie de manière imperturbable. Donc Monsieur Spock dans Star Trek n'est pas vraiment un stoïcien, même si apparemment le créateur du personnage, donc Roddenberry, était influencé par le stoïcisme pour créer le personnage, mais c'était une vision un peu caricaturale du stoïcisme, on va dire. Les stoïciens enseignaient plutôt une sorte de transformation des émotions qui permettait d'atteindre un calme intérieur, une paix intérieure. Et les émotions, donc la peur, la colère ou l'amour, sont des réactions humaines qui sont tout à fait instinctives par rapport à certaines situations et qui ne peuvent pas être évitées. Mais on peut utiliser l'esprit, les capacités de réflexion pour se détacher de ces émotions et pouvoir porter un certain jugement sur ces émotions. ce qui permet de donner ou pas son assentiment, de les alimenter ou pas, et de pouvoir savoir si elles sont appropriées ou si elles devraient être cultivées ou non. Alors pour être plus précis, les stoïciens distinguaient les réactions instinctives des sentiments qui sont issus d'un jugement ou d'une idée. Donc, leur but, c'était vraiment donc d'atteindre cette espèce de paix intérieure, de paix de l'esprit. Et pour eux, cette paix de l'esprit, elle résulte d'un jugement éclairé par rapport à justement ces émotions. Autre chose qui est très importante pour les stoïciens, c'est le fait de vivre de manière vertueuse, d'avoir une bonne vie en suivant les quatre vertus qui sont importantes. Alors, ces vertus, elles ne sont pas spécifiques au stoïcisme, on les retrouve aussi chez Platon, les académiciens, aussi chez Pythagore. Et donc, dans ces quatre vertus, on trouve la prudence, la tempérance, la justice et le courage. En prudence, on peut aussi le traduire par sagesse. Voilà, donc ces quatre vertus sont vraiment ce qui permet de vivre une bonne vie, une vie moralement bonne, vertueuse et qui mène au bonheur. Pour eux, cette notion de bonne vie, elle est vraiment liée à la vertu, quoi. Alors, ces quatre vertus permettent d'évaluer les choix qu'on peut faire et les décisions qu'on va faire suite à ces situations dans lesquelles on doit faire un choix. Et on peut dire qu'il y a un peu deux types de situations. Donc, il y a des situations où les choix qu'on fait peuvent être vertueux ou pas. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas vraiment de choix. Si on veut suivre la vertu, ben la décision, le chemin est tout tracé. Et puis, il y a aussi des situations qui sont un petit peu indifférentes en termes de vertu. Des situations qui sont, par exemple, liées, par exemple, au plaisir. Plaisir physique, par là ça peut être lié à la sexualité, à la nourriture, des jeux. Donc ces plaisirs physiques peuvent être qualifiés d'indifférents quant leur poursuite ne met pas à mal la poursuite des vertus. Alors ces indifférents, donc ils peuvent être plutôt positifs pour l'individu et à ce moment-là on peut les poursuivre. Ils peuvent aussi être plutôt négatifs, donc amener par exemple de la dépendance ou de la frustration. À ce moment-là, ils sont plutôt à éviter. Alors il y a d'autres exemples, par exemple la richesse, c'est considéré par les stoïques comme un indifférent, mais c'est un indifférent qui peut permettre d'atteindre d'autres objectifs qui sont importants, et donc dans certains cas, de nouveau, il peut être favorisé, ou en tout cas préférable, de poursuivre une certaine recherche de la richesse, même si en soi c'est pas quelque chose qui mène de manière directe à la vertu, à condition que ça puisse de manière indirecte à ce moment-là soit apporter quelque chose de personnel sans que ça soit négatif pour l'individu ou permettre indirectement d'accéder plus facilement à certaines vertus. Et donc cette poursuite des indifférents qui est autorisée par le stoïcisme, elle rend le courant stoïcien moins austère que ce qu'on peut imaginer. Puisque, il y a une place pour autre chose que la poursuite de ces quatre vertus cardinales, ce qui permet aussi de vivre avec du plaisir, avec des choses qui peuvent être par d'autres philosophies considérées comme négatives. Bon, je pense à des philosophies où il y a plus d'ascétisme, comme du côté du bouddhisme, où on va rejeter plus facilement les richesses matérielles parce qu'elles ne mènent pas à la vertu. Et on va pas vraiment considérer que le fait que ça apporte quelque chose de personnel à l'individu en termes de plaisir, par exemple, que ça soit une bonne raison pour poursuivre ses objectifs. Faut pas oublier non plus qu'une grande partie des stoïciens étaient des hommes politiques. Et donc évidemment, la poursuite de la richesse leur permettait aussi de pouvoir après avoir une plus grande influence sur la cité, ce qui permettait de faire évoluer la société vers justement ces quatre vertus cardinales. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut dépendre du contexte. Pour une personne, ça peut être positif, pour d'autres, ça peut aussi ne pas l'être. Il y a un autre principe important pour les stoïciens, c'est de faire la distinction entre les choses qui sont en notre pouvoir et celles qui ne le sont pas. Donc dans la première catégorie, on trouve surtout les pensées, les attitudes. par attitude, ce que j'entends, c'est vraiment la manière dont on va se comporter ou se positionner par rapport à quelque chose. Et cette partie qui est en notre pouvoir, on peut aussi la travailler, on peut s'améliorer. On peut apprendre à donc mieux contrôler ses pensées, mieux analyser le monde pour pouvoir choisir des attitudes plus adaptées. Et l'idée donc, c'est que la paix intérieure, la paix de l'esprit, va émerger lorsqu'on se concentre avec notre raison sur tout ce qu'on peut contrôler, tout ce qui dépend de nous, plutôt que de dépenser de l'énergie à essayer de se focaliser sur des choses qu'on ne peut pas contrôler, et qui à ce moment-là devraient plus être acceptées, plutôt que d'amener des tentatives de contrôle, ou de la colère, ou de la frustration, ou position d'envie de revanche dans certains cas. Voilà, donc les stoïciens pensaient vraiment qu'une partie de nos souffrances viennent du fait qu'on essaie de contrôler des choses qu'on ne peut pas contrôler, plutôt que de les accepter. C'est une idée qu'on retrouve dans d'autres philosophies, évidemment, et qui est aussi au cœur de la thérapie cognitive, qui est travaillée via différents outils. Les stoïciens étaient aussi intéressés, donc, comme je disais tout à l'heure, par le fait d'améliorer la société. Il y a pas mal d'entre eux qui étaient végétariens, qui essayaient aussi d'améliorer la condition humaine, de militer pour la société. Donc ce ne sont pas des personnes qui méditaient dans leur coin, à l'écart du monde, ou renfermées sur eux-mêmes ou sur leur vie intérieure. Alors maintenant que j'ai un petit peu expliqué les idées, le fonctionnement du stoïcisme, je vais vous parler un tout petit peu des applications concrètes, ou en tout cas des exercices concrets qui permettent de pratiquer justement ces vertus. Alors, il y a quelques exemples qui sont dans la littérature et que Massimo Pigliucci cite ici, des exemples d'outils qu'il utilise lui-même. Il y a ce qu'il appelle la méditation matinale. Donc ça, c'est le fait de se lever et de chercher un endroit calme, doucement éclairé dans l'appartement ou dans la maison, de s'installer confortablement et d'essayer de passer en revue les défis potentiels qu'on va affronter pendant la journée. Et de repenser aux quatre vertus qui peuvent servir de guide pour les choix qu'on va faire face à ces défis potentiels pour essayer de les relever de la manière la plus vertueuse possible. Alors un autre exercice. C'est le cercle de Hiéroclès. C'est un exercice de visualisation pendant lequel on imagine notre propre personne et on va faire croître mentalement différents cercles d'intérêt autour de notre personne pour penser petit à petit à différents éloignements qui représentent différents groupes de personnes. Donc il y aura d'abord la famille, hein, donc en termes de proximité, après les amis, les voisins, les collègues ou les condisciples, entre guillemets, et puis les citoyens, et puis l'humanité tout entière. Et c'est une manière de se rappeler que tout le reste du monde est aussi important que ce que nous sommes, et que c'est important de se sentir concerné de ce qui arrive au reste du monde. Parce que tout ce qui arrive dans le monde, quelque part, tout le monde en est responsable, même si on n'en est pas l'origine. On est tous responsables de ce qui se passe. Et on peut tous essayer d'utiliser cette part de responsabilité pour faire évoluer les choses. Alors, un autre exercice, qu'il appelle Premeditatio Malorum. Donc, cet exercice consiste à visualiser un malheur qui peut vous arriver, dans le but de dépasser votre peur de cet événement et de mieux vous y préparer, s'il finit par se concrétiser. Donc cette visualisation, ça peut être une chose assez simple, par exemple simplement anticiper l'énervement qu'on peut avoir suite au bouchon dans la circulation, en voiture, ou face au stress qui peut se produire quand on est dans un endroit comme le métro, bourré de monde. Voilà, c'est aussi un exercice qu'on retrouve dans la thérapie cognitive. Dans d'autres thérapies, il vise vraiment à, de manière volontaire, se confronter aux aspects émotionnels et cognitifs d'une situation difficile. L'idée, de nouveau, c'est de reprendre le contrôle un peu de l'imagination, de la pensée, des émotions, en se confrontant ici à la situation difficile. Maintenant, voilà, évidemment, c'est un exercice qui peut demander un petit peu d'entraînement ou de travail préalable. Et donc, Piguchi, dit qu'on peut même aller jusqu'à imaginer la maladie, la mort avec cet exercice. Mais il recommande évidemment de laisser ça pour plus tard, quand on est bien à l'aise avec la pratique. Et aussi de s'exercer pas trop souvent à faire ce genre d'exercice, parce que ça peut aussi être déconcertant. Alors, il y a aussi la méditation de pleine conscience. Bon, ça c'est vraiment probablement l'exemple le plus typique de ce qui a été exporté dans certaines thérapies, comme la thérapie cognitive. Donc, le principe de la méditation pleine conscience, c'est vraiment de méditer en faisant attention à l'ici et maintenant, à ce qu'on fait, à ce qu'on est, à ce qu'on est en train de ressentir, et à ce qu'on pourrait appeler en psychologie le flow, c'est-à-dire cette sensation de conscience, cette sensation qu'on peut avoir au niveau de la conscience, quand on est vraiment focalisé sur le présent, sur nos sensations, sur notre place dans les choses, ici, au moment même. Voilà, donc c'est un peu difficile à décrire ce concept de flow. Et cette méditation, elle peut aussi être utilisée après pour faire attention à certains aspects particuliers de nos choix notamment. Donc ça permet, une fois qu'on s'est vraiment centré sur nous, sur l'ici et maintenant, ça permet de reporter son attention sur les détails d'un autre aspect des choses, par exemple un choix éthique. Voilà, il y a encore un autre exemple que Piguchi cite, c'est la méditation du soir, qui est une sorte de journal intime philosophique. Donc là, le principe avant d'aller au lit, c'est simplement de se repasser dans la tête les événements importants de la journée, et de se poser trois questions qui ont été pensées par Épictète. Qu'est-ce que j'ai fait correctement pendant cette journée? Qu'est-ce que je n'ai pas fait correctement? Et quel devoir n'a pas été accompli? Quel devoir a été accompli? Donc pour mener à bien cet exercice, ça peut être utile de tenir une sorte de journal intime. Ça permet un petit peu de voir l'évolution des choses, d'avoir un petit peu plus de recul sur ce qui se passe, sur les situations qui peuvent être récurrentes notamment. Voilà, donc ça permet d'apprendre de ces événements plutôt que d'être dans une sorte de répétition comme ça où on répète une sorte de cycle sans prise de conscience qui permettrait d'en sortir un petit peu. Voilà, alors je vais terminer par quelques personnes célèbres au niveau du stoïcisme. Donc j'ai cité au tout début Zénon, donc qui est le fondateur, le premier stoïque hein, de cette école en moins 300 avant Jésus-Christ. Et après lui, on trouve quand même d'autres personnes importantes, donc notamment Sénèque. Donc Sénèque, c'est à peu près moins 60 avant Jésus-Christ. Donc lui, c'était un stoïcien romain, et aussi un homme d'État et un dramaturge. Et bon, pour la petite histoire, il a été forcé de se suicider, parce qu'on pensait qu'il avait été complice dans une tentative d'assassinat de l'empereur de son époque. Alors il y a Épictète aussi, qui est un personnage que tout le monde connaît un petit peu. Donc Épictète, c'est 55 et 135. C'est un philosophe stoïcien d'origine grecque et qui a comme particularité d'être né comme esclave en Turquie. Et donc pour Épictète, tous les événements extérieurs sont déterminés par le destin et sont au-delà de tout contrôle possible de notre part. Nous devons donc accepter ce qui arrive d'une manière calme et dépassionnée. Cependant, les individus sont quand même responsables de leurs propres actions. Ils peuvent examiner et contrôler grâce à une maîtrise de soi rigoureuse. Donc là, ça peut sembler un peu paradoxal, évidemment, ce que je viens de dire. Soit on est en contrôle, soit on ne l'est pas. Maintenant, voilà, l'importance du déterminisme varie en fonction un peu des philosophes, y compris chez les stoïciens. Donc, il y en a qui sont plus déterministes que d'autres. Alors après, il y a Marc Aurèle, qui est aussi un des plus connus. Donc, qui avait comme particularité d'être empereur à Rome de 1900, pardon, 1900, pas vraiment la bonne époque, de 161 à 180. Et c'est considéré comme l'un des plus importants stoïciens. Et il a contribué beaucoup à écrire et à transmettre des écrits sur d'autres stoïciens. Ça permet d'avoir des sources par la suite. Voilà, donc ça termine un peu cette introduction. Alors j'ai pas présenté tout le contenu du billet. Voilà, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses. Donc si ça vous a intéressé, donc n'hésitez pas à aller lire ce billet sur la théière cosmique. Donc ça s'appelle une introduction au stoïcisme. Donc ça date de fin janvier 2017. Vous trouverez facilement sur le site. Et bah si vous savez lire en anglais, il y a évidemment donc le blog de Massimo Pigucci qui s'appelle How to be a Stoic. C'est howtobeastoicwordpress.com. Voilà, donc là vous pourrez trouver une grande quantité d'articles rangés par type. Et donc il y a toute une série d'articles qui concernent vraiment une des vertus. Il y a des articles qui parlent du stoïcisme au quotidien dans notre époque contemporaine. Il y a des articles qui sont une lecture stoïque de la culture, de la pop culture. Il y a des questions-réponses avec des conseils. Il y a des articles sur la science, sur la religion, sur la psychologie, sur la métaphysique. Enfin, voilà. C'est vraiment très très vaste. Il y a plein d'articles qui sont assez passionnants. Gucci est quand même assez bon pédagogue et ses articles sont assez faciles à suivre, même s'il y a parfois des termes un peu techniques. Notamment certains termes qu'on a eu du mal à traduire ici pour le billet. Alors une autre chose qui est intéressante, si vous allez sur notre traduction sur la théière cosmique, vous verrez en début de billet, en fait il y a 5 ou 6 schémas qui sont des schémas qui expliquent les différences entre le stoïcisme ancien et le stoïcisme moderne, des principes minimaux de l'application du stoïcisme. Il y a aussi un schéma d'une sorte d'algorithme de prise de décision. Alors celui-là, je vais vous lire les branches parce qu'elles sont assez simples. Ça résume assez bien la philosophie. Donc en cas de prise de décision, donc faut se demander si c'est en notre contrôle ou pas. Bah si c'est pas en notre contrôle, à part accepter, on peut rien faire. Si c'est en partie en notre contrôle, bah il faut faire la distinction entre la tentative de enfin, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avancer dans ce choix, pour essayer d'avancer vers les vertus. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir comme résultat de manière réaliste, hein, parce qu'on ne peut pas toujours obtenir un résultat qui est très proche des vertus, puisqu'il y a une partie des choses qui ne sont pas en notre contrôle. Donc là, on essaye de faire du mieux qu'on peut, en gros. Alors si c'est en grande partie ou tout à fait en notre contrôle, à ce moment-là, la question à se poser, c'est est-ce que ça concerne une des vertus ou pas? Donc si ça concerne une des vertus, le principe, c'est simplement bah, d'essayer de se rapprocher. Par la vertu, donc on peut utiliser cette occasion pour pratiquer la vie vertueuse. Hein, donc la sagesse, la justice, tempérance et courage. Alors si c'est quelque chose qui ne concerne pas la vertu, donc là c'est ce qu'on appelle les indifférents, comme je disais tout à l'heure. Donc il y a des indifférents qui sont plutôt positifs ou désirables pour l'individu, même s'ils ne sont pas au niveau des vertus. À ce moment-là, on peut donc aller vers ces indifférents. Tant que ça ne rentre pas en conflit avec les quatre vertus. Si ce sont plutôt des indésirables, donc des indifférents qui sont plutôt négatifs pour l'individu, là dans ce cas-là, il vaut mieux essayer de les éviter, de nouveau, à moins que l'évitement de ces situations ou de ce choix rentre en contradiction avec une des vertus. Voilà, ça c'est ce petit algorithme de prise de décision qui est un bon résumé du système moral. Il y a encore d'autres schémas que vous trouverez. Il y a un diagramme aussi qui résume un peu tous les aspects théoriques du système philosophique des stoïciens. Ben voilà, c'est des schémas qui ont été faits par Pigucci et qui sont plutôt sympas. On les a traduits aussi. Vous les trouverez en début du billet avec quelques autres illustrations. Voilà, donc ça clôture cet épisode. Si jamais vous avez des questions, donc n'hésitez pas à les poser. Bon, j'essaierai de répondre, vous pouvez les poser sur la page du balado par exemple. J'essaierai de répondre tout en sachant que je ne suis pas du tout un spécialiste du stoïcisme. Voilà, donc je je découvre un peu le sujet aussi, même si je m'y intéresse depuis quelque temps. Je suis loin d'avoir lu tout ce que Piguchi a écrit sur son blog. Mais voilà, c'est en cours et j'avance dans les articles. Donc c'est possible, même probable, qu'on refasse un épisode ultérieurement. Probablement quand on aura lu le livre de Piguchi sur le stoïcisme. Voilà, merci à tous et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre épisode. Ciao!